Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Galiane Touze, je suis secrétaire générale du groupe Econocom. Et j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui aux côtés du nouveau comité exécutif du groupe pour vous présenter les résultats du premier semestre 2018. Alors, au-delà de ces résultats, nous allons vous présenter nos objectifs pour l'ensemble de l'année et les actions que nous avons mises en œuvre qui nous permettent d'être confiants dans notre capacité à atteindre ces résultats. Nous avons également souhaité profiter du fait que vous êtes tous réunis pour revenir sur deux de nos trois activités, les activités de service, qui sont en pleine transformation, vous le savez. Et pour ça, Laurent Roudil, je ne le vois pas, mais il est dans la salle. Il est là. Laurent dirige nos activités de service sur ce qu'on appelle la planète France. Et donc, il vous parlera des actions de transformation qu'il est en train de mettre en œuvre. Nous avons aussi souhaité vous parler de nos activités de location. Alors, les activités de location, mon regard s'oriente à droite parce que Éric Lucas, qui va vous parler, est là. Donc, les activités de location, elles suscitent beaucoup de questions et c'est bien normal parce que nous sommes la seule ESN à disposer de ce savoir-faire. Les activités de location, c'est l'activité historique du groupe. C'est une activité dont nous sommes leaders en France comme en Europe. Et c'est, en tout cas, c'est une intime conviction, un actif essentiel pour le groupe Econocom, qui est aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de tendances du marché, et en particulier de l'économie de la souscription. Éric reviendra sur cette évolution. Plus important que les chiffres, il y a évidemment les hommes et ceux qui portent l'ambition du groupe Econocom. Ils sont autour de nous, ils sont ici aujourd'hui, en particulier le nouveau comité exécutif du groupe, Robert Bouchard, qui est ici au premier rang, que vous connaissez déjà en tant que COO, s'adressera à vous en tant que CEO. Sur l'estrade, à ses côtés, Martine Bayens, que vous connaissez en tant que directrice générale en charge des satellites. Elle a bien d'autres responsabilités dans le groupe, notamment les offres, et elle vous parlera de nos offres transversales. Également David Krief, qui nous a rejoint en décembre dernier et qui dirige les finances du groupe. Alors, dans la salle également, Julie Verlingue, qui est ici. Julie nous a rejoint en mars dernier pour diriger l'ensemble de nos activités hors de France. Et donc, vous aurez la possibilité de poser à Julie des questions après la présentation. Alors, pour ceux qui s'inquiéteraient de ne pas voir Bruno Grossi dans la salle, alors rassurez-vous, il va très bien. Malheureusement, il ne peut pas être là aujourd'hui parmi nous, mais il m'a chargé de tous vous saluer. Il me reste à vous présenter l'agenda, qui doit être derrière moi. Non. Qui est derrière moi? Non. Voilà. Donc, Robert Bouchard déboutera par les faits marquants et les chiffres clés du semestre. Puis David Krief, donc directeur général en charge des finances, commentera les résultats du premier semestre. Puis nous en viendrons au plan d'action. Alors un plan d'action qui porte sur des actions court terme, qui impactent positivement nos résultats et en particulier notre second semestre, mais également des actions qui préparent, qui construisent le socle de la croissance profitable de demain. Robert reviendra pour conclure cette présentation et revenir sur l'Outlook 2018. Alors, comme d'habitude, à l'issue de cette présentation, nous aurons du temps pour les questions. Donc, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez poser au comité exécutif et aux dirigeants opérationnels qui sont dans la salle aujourd'hui. Robert, le micro est à toi.
Merci, Galiane. Bonjour à tous. C'est la première fois que je suis amené à m'adresser à vous en tant que CEO d'Econocom. Comme vous le savez, notre gouvernance a changé. Mon père, Jean-Louis Bouchard, assure la présidence du conseil d'administration et j'en assure la direction exécutive. Mon père et moi avons des styles différents, mais nous partageons le même désir d'excellence et la même ambition pour Econocom. Nous sommes en accord total sur les valeurs du groupe et sur son esprit entrepreneurial, sur la pertinence et la puissance de son business model. La gouvernance et notre équipe de direction ont totalement été renouvelées. Pour diriger le groupe, j'ai aujourd'hui à mes côtés le comité de direction groupe, qui qui rassemble Bruno Grossi, en charge des M&A et de l'offre de conseil, David Krief, pour la finance, les relations investisseurs et le juridique, Martine Bayens, pour les satellites et le transverse, ainsi que Julie Verlingue, qui nous a rejoint pour diriger le groupe en mars dernier et qui dirige nos activités à l'international. Un comité de direction opérationnelle élargi qui réunit entre autres les patrons de Métiers France, Éric Lucas pour les offres TMF France, Laurent Roudil, Philippe Gouillou pour les offres PNS France. Les patrons de pays, Enrico Tantuzzi pour l'Italie, Aurel Benguigui pour l'Espagne, Laurent Caparros pour l'Europe de l'Est, du Nord et les US, Bruno Ronce pour la Belgique et Louise Beveridge pour la marque et la communication. Cette nouvelle gouvernance, dynamique, transversale, ambitieuse, accueille donc de nouveaux talents qui apportent leurs expertises aux côtés des dirigeants qui ont construit le groupe jusqu'à présent. C'est une pluralité d'expériences et de compétences à la hauteur des défis que nous lancent nos marchés. Nous avons la chance d'être au cœur d'une révolution industrielle sans précédent et nous opérons dans un environnement en permanente reconfiguration. Je souhaite partager avec vous trois constats. Premièrement, l'accélération de l'innovation digitale est radicale et touche tous les domaines. Plus aucune industrie n'est à l'abri. De nouveaux marchés apparaissent chaque année. Cloud, big data, sécurité, intelligence artificielle. Chacun d'entre eux va atteindre une taille considérable. Pour les entreprises et les organisations, la transformation digitale n'est plus une question. C'est un impératif. Reste pour chacune à savoir comment réussir cette transformation et libérer cette valeur. Econocom est aux avant-postes de cette révolution. Nous aidons les entreprises et les organisations à penser, à utiliser efficacement le numérique. C'est une immense opportunité. Toutefois, la transformation digitale peut faire peur, surtout s'ils ont en tête des exemples de virages manqués comme Kodak ou Virgin. Notre rôle est de dédramatiser. L'aventure peut être fluide, sans douleur, à une condition. Se mettre à la place de l'utilisateur final, les clients de nos clients, les salariés de nos clients, et comprendre leurs besoins. Mon second constat est que les utilisateurs finaux, vous, moi, nos clients, les clients de nos clients, les employés de nos clients, sont les décideurs finaux. Leur exigence, l'immédiateté, le plaisir d'usage, d'ubiquité, imposent aux entreprises de nouvelles manières de travailler. Elles sont confrontées à des sujets majeurs de conduite du changement. Troisième tendance fondamentale, la facturation à l'usage prend un essor considérable. Les solutions de financement, le paiement à l'usage, devient une exigence de marché en quête sans cesse de flexibilité. C'est le cœur de notre modèle et cette tendance fondamentale du marché, un atout considérable pour développer notre groupe. Éric Lucas, qui dirige nos activités TMF en France, reviendra sur ces opportunités et les nouveaux marchés que nous souhaitons investir. Dans ce contexte de marché, porteur, Econocom dispose d'atouts importants. Econocom, je vous le rappelle, c'est plus de 40 ans d'expérience, près de 11 000 collaborateurs, talentueux et engagés. Une présence dans 19 pays, 7 millions d'actifs technologiques gérés et environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Econocom, c'est également un modèle unique qui combine trois métiers complémentaires, les services, la distribution et le financement, c'est-à-dire des compétences technologiques et financières pour mettre à disposition des entreprises les innovations du digital. Nous sommes les seuls du marché à avoir ces trois métiers et cette exécution intégrale de bout en bout. Econocom, c'est aussi la galaxie, un modèle de développement original qui offre à nos clients le meilleur des deux mondes. La puissance industrielle de la planète, l'agilité et la spécialisation de nos satellites. Econocom, enfin, c'est un ADN. Nous cultivons un esprit entrepreneurial, une indépendance farouche, un pragmatisme et des valeurs, la bonne foi, l'audace et la réactivité. Notre ADN, c'est aussi cette capacité à nous réinventer, à innover au gré des besoins de nos clients, à apporter des solutions efficaces et pragmatiques. Econocom, son histoire est une histoire de transformation réussie, une histoire de croissance. J'entends poursuivre cette histoire avec mon équipe, avec une ambition claire, faire de notre groupe le leader de la qualité d'utilisation du digital dans les entreprises. Cela nécessite d'investir, sans tarder et dès cette première année du plan stratégique, dans la qualité de notre delivery, dans nos outils, dans nos process et bien évidemment dans nos offres. Cette accélération de la transformation du groupe et de ses métiers pèse sur la rentabilité à court terme. Mais j'en ai la conviction est indispensable pour poursuivre notre trajectoire de croissance rentable. Je vous propose maintenant d'en venir à nos résultats du premier semestre. Comme je vous l'ai dit, nous sommes une société de croissance et nous le prouvons encore au premier semestre avec une croissance organique de près de 4% et une croissance totale de 13%. Notre résultat opérationnel courant est en retrait par rapport à l'année dernière, ce qui nous a conduit à modifier notre guidance. David Krief y reviendra dans quelques instants. Enfin, notre dette est sous contrôle, nos ratios restent très sains, à 2,4 fois l'EBITDA, et nous avons lancé des initiatives pour améliorer notre génération de cash. Je laisse à présent la parole à David, qui va revenir en détail sur ces résultats. David, c'est à toi.
Merci Robert. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats du groupe sur le premier semestre en vous présentant tout d'abord les résultats au niveau du groupe, chiffre d'affaires et résultats, avant d'entrer dans un détail par activité et de conclure sur la trajectoire de notre dette. Au cours du premier semestre, le groupe a connu une croissance de 12,8%, dont 3,8% en organique, pour atteindre 1 319 millions d'euros au 30 juin. Cette croissance s'est appuyée sur une croissance de l'ensemble de nos activités. Croissance au niveau produits et solutions, c'est-à-dire la distribution, de 40,7% dont 6,7% en organique. Croissance au niveau des services, de 19,4% dont 4,8% en organique. Et enfin, croissance également de TMF à 1,8%, l'intégralité étant réalisée, vous le savez, en organique. Au niveau du résultat, nous avons enregistré un résultat au premier semestre en retrait de 24 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Ce retrait, donc conduisant notre résultat à 34,2 millions d'euros, se répartit principalement sur TMF, qui a un résultat de 14,1 millions d'euros comparé à 38 millions d'euros l'année dernière. Service est en légère croissance à 15 millions d'euros contre 14,6 et produits et solutions en léger retrait à 5,1 comparé à 5,5 millions d'euros. Donc maintenant, pour rentrer dans le détail de l'activité TMF, nous avons un revenu au premier trimestre qui a été en retrait de 6%, après un dernier trimestre de l'année 2017 qui, vous le savez, a été tout à fait exceptionnel dans l'histoire d'Econocom, 28% de croissance. TMF a retrouvé la croissance habituelle de l'activité au cours du second trimestre, avec 9% de croissance au cours du second trimestre. Cette croissance nous a permis d'avoir une croissance sur l'ensemble du semestre de 1,8%. Néanmoins, elle a été un petit peu trop tardive par rapport à ce que nous envisagions. Le résultat courant s'élève à 14,1 millions d'euros, donc 24 millions d'euros de moins que l'année dernière, qui s'explique pour 9 millions d'euros par des provisions et pour 15 millions d'euros par plusieurs facteurs, pour l'essentiel sur la top line. Donc d'une part, des contrats que nous devions signer en juin pour un peu plus de 4 millions d'euros qui ont finalement été signés postérieurement en juillet. D'autre part, nous avons enregistré moins de grandes opérations de financement structuré que nous n'avions enregistré l'année dernière. Et enfin, nous avons eu davantage de nouveaux clients, un poids plus important des nouveaux clients dans le chiffre d'affaires de TMF que ce que nous avions eu l'année dernière. Alors ces nouveaux clients sont une bonne nouvelle pour la suite, puisque la rentabilité d'un portefeuille de location se construit dans le temps. Néanmoins, à très court terme, ils ont pénalisé le résultat. La raison pour laquelle la rentabilité se construit dans le temps, vous le savez, est liée au fait que les clients trouvent principalement deux valeurs, pour schématiser, mais Eric détaillera, trouvent principalement deux valeurs à la location. D'une part, la location de l'actif elle-même. D'autre part, la flexibilité qu'offre un contrat de location. Cette flexibilité est utilisée dans le temps, elle est rémunérée dans le temps, donc elle se matérialise une fois que le portefeuille, que le contrat, a déjà quelques mois, quelques années. Les intérêts résiduels au niveau de TMF, je sais que vous êtes très attentifs, restent à un niveau faible, 154 millions d'euros contre 141 millions d'euros à la fin de l'année 2017. Et donc, ils représentent 2,6% des prix d'achat d'origine, ce qui est en ligne avec ce que nous avions l'année dernière. Pour revenir à TMF, nous vous indiquons régulièrement que TMF est une activité qui est relativement volatile d'un trimestre sur l'autre. Il y a des effets de cut-off qui sont assez importants. Toutefois, l'allocation sur une période plus longue est une activité en croissance. Et ça, c'est une constante. Le graphique ci-derrière l'illustre, vous voyez ici la moyenne de la croissance de TMF de façon glissante sur 12 mois glissants. Et l'on voit que cette croissance est toujours positive. Nous voyons également un signal positif dans le fait que si l'on prend la croissance en like for like, non pas sur 12 mois mais sur 24 mois, cette croissance était un petit peu négative au premier trimestre 2018. Elle est maintenant un petit peu, elle a retrouvé le chemin de la croissance, elle est positive à plus de 2% sur 24 mois au second trimestre de l'année 2018. Nous avons donc atteint un point d'inflexion. Pour passer aux services, nous avons dans les services constaté une bonne croissance. Croissance organique portée pour l'essentiel par les satellites. La planète a cru de 1% en organique et les satellites ont cru de 11%, ce dont nous nous félicitons. En revanche, la rentabilité des services, à l'heure actuelle, ne nous satisfait pas. Nous avons embarqué une décroissance de résultats sur l'année 2017 et nous constatons toujours aujourd'hui de la pression lors de la renégociation de nos contrats, sur laquelle reviendra Laurent Roudil dans un instant. Aussi pour cela, nous avons mis en place un plan d'action qui vise deux objectifs. D'une part, la réduction de la base de coûts et d'autre part, le développement de nouvelles offres pour nous positionner sur des segments plus porteurs des services. Nous avons donc accéléré le plan de transformation des services pour l'amener sur le premier semestre afin de pouvoir commencer à bénéficier de ses effets dès le second semestre. Pour l'activité produits et solutions, nous avons une croissance totale de 40,7% et une croissance organique qui reste structurellement forte sur ce marché à 6,7%. L'année dernière, pour rappel, au premier semestre, nous étions à 9% de croissance organique. Nous avons gagné des parts de marché auprès de grands comptes, auprès du secteur public et nous avons également diversifié les actifs, les équipements que nous distribuons par ce biais. Alors, le résultat au cours du premier semestre est en léger retrait et ne reflète pas la croissance organique et la croissance globale que je vous expliquais. Alors, la raison est multiple. D'une part, Produits et Solutions a investi et a contribué aux investissements du groupe dans le développement de nouvelles offres et dans le développement de mix de ce qu'on appelle les bundles avec les autres activités. D'autre part, chez Produits et Solutions également, lorsque nous gagnons des parts de marché auprès de grands comptes, auprès de secteurs publics, nous gagnons des parts de marché dans des contrats pluriannuels. Et nous avons la même logique, avec des mécanismes différents, mais la même logique, que sur la location, les marges se construisent dans le temps. Elles se construisent dans le temps, d'une part, parce que vous avez effectivement de la flexibilité, à laquelle il est fait appel au fur et à mesure du contrat, mais également car vous avez des back margins avec les équipementiers, avec les fabricants, qui, elles aussi, se développent dans le temps. L'écart important que l'on constate entre la croissance organique et la croissance globale est lié à des acquisitions que nous avons faites en connaissant leur rentabilité, le prix le reflétait, afin de prendre des positions et de faire fructifier ultérieurement ces positions. Alors pour résumer, le compte de résultats consolidé, vous voyez, vous y retrouverez le revenu ainsi que notre résultat opérationnel courant. Vous avez le résultat net, dont la baisse est en ligne avec la baisse du résultat opérationnel courant. Et vous voyez également un point important, les éléments non récurrents, les exceptionnels. Cela traduit ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt avec l'accélération du plan de transformation des services, notamment sur le premier semestre. Les exceptionnels s'élèvent, ce premier semestre à 20 millions d'euros contre 10 millions d'euros l'année dernière. Nous attendons sur le second semestre un petit peu moins de 10 millions d'euros complémentaires. Maintenant, je vous propose de passer à la dette. Donc la dette chez Econocom est traditionnellement très saisonnière. Nous avons classiquement un premier semestre où la dette est plus importante que ce qu'elle a été en fin d'année. Alors cette année, nous avons le même constat naturellement. Néanmoins, nous avons quelques éléments que nous regardons positivement. La saisonnalité a été moins marquée qu'au cours des exercices précédents. Alors cela se traduit notamment au niveau du BFR. Nous avons une augmentation du BFR de 52 millions d'euros, contenue à 52 millions d'euros, alors qu'elle avait été l'année dernière de 106 millions d'euros. Au cours de l'exercice 2016, elle avait également été significativement supérieure aux 52 millions d'euros que nous constatons sur cet exercice. Alors cette dette s'élève à 395 millions d'euros et elle nous permet de continuer nos investissements au sein de la planète, au sein de nos satellites et par des acquisitions également, le tout pour 32 millions d'euros sur le début de l'année. Nous avons également poursuivi nos investissements dans TMF avec 53 millions d'euros au sein de DFL. Donc ces investissements sont évidemment des investissements pour lesquels nous sommes très attentifs au niveau du risque. Notre track record est là pour le montrer. Et nous avons également affermi les exigences de TRI sur ces investissements dans notre captive afin d'assurer que les flux cash soient au rendez-vous. Pour regarder la dette de l'autre côté du miroir, au niveau de ce qui permet de financer cette dette. Nous avons une dette qui est aujourd'hui tout à fait soutenable, qui représente 2,4 fois notre EBITDA sur 12 mois, niveau que nous considérons comme tout à fait confortable. Nous avons au sein de cette dette 260 millions sur les 395 qui sont d'une nature que nous regardons comme un petit peu différente, dans la mesure où il s'agit d'une dette qui est adossé à des contrats de location. C'est-à-dire qu'en face de cette dette, vous avez des loyers qui viendront, nonobstant les risques de contrepartie naturellement, rembourser mécaniquement ces 260 millions d'euros. Les loyers que vous avez en face de ces 260 millions d'euros sont bien évidemment, comme toujours dans une activité de location, sécurisés par des actifs dont nous avons la propriété. Nos prochaines grandes échéances sur la dette sont en 2020 avec 45 millions d'euros et en 2021 avec 137 millions d'euros. Nous n'avons pas d'échéance au cours des prochains mois. Et enfin, au-delà de cette dette de 395 millions d'euros, nous avons des capacités de financement robustes, 230 millions d'euros de lignes de crédit que nous n'avons pas puisé à ce jour, auprès évidemment d'établissements financiers de premier ordre, dont 140 millions qui ont été confirmés. Nous avons donc une situation tout à fait solide pour atteindre nos résultats de l'année et bien au-delà, poursuivre les travaux stratégiques que Robert vous a indiqués. Je laisse d'ailleurs la parole à Robert afin de parler de notre plan d'action.
En effet, nous donnons la priorité absolue à la réussite du second semestre. Nous allons présenter les grandes mesures que nous mettons en place pour atteindre nos objectifs. David Krief présentera une synthèse de nos actions de réduction de coûts à court terme et un point de vue sur nos initiatives de cash. Laurent Roudil, qui dirige les services en France, fera ensuite un focus sur son programme de transformation. Éric Lucas, qui pilote TMF France, mettra en lumière les opportunités de l'activité. Martine Bayens vous présentera certaines nouvelles offres transversales et je reviendrai sur quelques éléments de notre politique M&A. Je laisse donc à nouveau la parole à David pour nos efforts de réduction de coûts.
Rebonjour. Donc nous avons mis en place dès le premier semestre 2018, naturellement, des efforts de réduction de coûts qui portent à deux niveaux. Des efforts de réduction de coûts au niveau du groupe, au niveau de la structure, et des efforts de réduction de coûts mis en place au sein de chaque business unit, pour un total d'économies brutes de 10 millions d'euros au cours du second semestre 2018. Au niveau du groupe, ces économies porteront au second semestre 3,5 millions d'euros d'économies. Elle s'appuie d'une part sur une révision en profondeur de l'intégralité de notre structure de coûts qui nous a permis de trouver des sources d'optimisation au niveau du groupe, que ce soit par des réductions de dépenses de diverses natures, de dépenses de communication, de dépenses d'investissement qui n'avaient plus nécessairement leur pertinence, et également de réduction d'effectifs lorsque c'était possible, mais également la reconfiguration au sein du groupe lui-même, au sein de la structure, des unités innovantes que nous avions entretenues, que nous avions fait croître au sein du groupe et qui ont pu retrouver leur place au sein des business units et avec l'efficacité de gestion caractéristique des business units, davantage, vous l'imaginez, que du groupe en tant que tel. Au niveau de chaque business unit, des efforts d'économie ont également été recensés, identifiés et mis en œuvre, pour un résultat attendu d'économies brutes sur le second semestre de 6,5 millions d'euros. Ces économies brutes sont liées pour environ 50% aux services et pour environ 50% naturellement aux autres BU. Elles portent sur la réduction de certains coûts de fonctionnement, notamment des coûts de déplacement, des coûts de représentation, tous les coûts classiques, des coûts des fonctions transverses également, des coûts RH, des coûts des fonctions finance. Elle s'appuie également sur une revue de l'intégralité des projets afin d'aller chercher des réductions là chaque fois que c'était possible. Laurent vous en parlera. Et la mise en pause, bien évidemment, des événements marketing non essentiels. Nous avons également revu les projets afin de nous concentrer sur les projets les plus rentables. Nous continuons d'être très attentifs à nos coûts afin de trouver des sources d'économies supplémentaires en 2018 et des sources d'économies qui continueront à produire leurs effets sur 2019. Ces économies à court terme doivent nous permettre de continuer à investir et à moderniser nos outils tout en atteignant notre objectif d'ES2 2018 à 120 millions d'euros. En complément de cet objectif, naturellement, nous avons nos initiatives afin de sécuriser notre génération de cash. Ces initiatives portent sur les deux grands postes, dont un poste est caractéristique d'Econocom. Tout d'abord, le BFR, évidemment propre à toutes les entreprises, dont vous connaissez les ressorts. Nous avons des actions à court terme et à moyen terme, des actions à très court terme qui sont la mise en œuvre de nouveaux outils de monitoring, de suivi des variations de BFR, de niveau de BFR attendu, qui permettra à chacun, à chaque opérationnel, à chaque financier, de voir de quelle manière il peut contribuer à la génération du cash, quelles sont les actions qu'il a pu mettre en œuvre afin d'optimiser son BFR et de les diffuser au sein de différents groupes, de différents comités que nous avons mis en place afin de partager, de propager les bonnes pratiques au sein du groupe et au sein de nos diverses géographies. Ce sont notamment ces partages de bonnes pratiques qui ont commencé à porter leurs fruits au premier semestre et qui nous ont conduit à une évolution du BFR plus favorable que ce que nous avions constaté au cours des deux derniers exercices. Notre objectif sur la fin de l'année est donc de constater un inflow de BFR par rapport au 31-12-2017. À moyen terme, maintenant, nous allons revoir, réexaminer la façon dont nous travaillons avec nos partenaires, nos fournisseurs, mais également les clauses avec nos clients, afin de nous assurer que nous avons une gestion aussi optimale que possible du BFR, cette fois en rentrant un cran plus loin dans notre modèle. Nous allons également, et ça ce sera une nouveauté de l'année 2019, facturer dans les différentes business units, dans les PNL, le BFR au coût du WACC, afin d'assurer que l'ensemble des intérêts sont bien alignés sur cette génération de cash. Maintenant, pour le point peut-être plus spécifique à Econocom, EDFL, les deals que nous portons sur notre bilan, nous avons là aussi des actions de très court terme et des actions qui porteront leurs fruits sur la durée. À très court terme, nous avons entamé un réexamen de l'intégralité de notre portefeuille autoporté afin d'externaliser, afin de revendre une part importante de nos créances, le revendre soit à nos refinanceurs parce que la situation a évolué, parce que nous expliquons, parce que nous comprenons mieux les créances, ou le revendre avec de l'assurance crédit. Nous avons développé des relations plus étroites avec les assureurs crédit qui nous permettent en lien avec nos partenaires bancaires, qui nous permettent de céder davantage de créances, de les sortir de notre bilan. Nous avons également travaillé à une génération d'opérations financement structuré appuyées sur EDFL, mais qui ont une empreinte bilancielle moindre, donc qui généreront moins de dettes sur le second semestre. Et enfin, nous avons accru nos exigences de TRI d'ici la fin de l'année pour nos opérations financement structuré. À moyen terme, nous travaillons à une évolution de nos modalités de financement, de l'opération financement structuré, de nos opérations de financement structuré. Je vous ai parlé des assureurs crédits. Nous travaillons également avec d'autres partenaires afin de faire porter ces opérations par EDFL, mais aussi par nos partenaires financiers. Et évidemment, comme nous vous l'expliquions, ces opérations sur de nouveaux types d'actifs, sur de nouvelles modalités contractuelles ont un track record qui nous permettent de nous en prévaloir et de refinancer davantage de parts de ces opérations auprès de nos partenaires habituels. Je laisse maintenant la parole à Laurent Roudil, directeur général Service France, pour vous parler des services.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver 6 mois après. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous en mars lors des questions-réponses. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai rejoint le groupe Econocom en janvier 2015. Ma première mission a été de créer la direction des comptes stratégiques au cours des 3 premières années. Et le groupe m'a proposé de prendre l'activité des services en France en début d'année 2018, ce que j'ai accepté avec enthousiasme. Au préalable, j'étais directeur général de la filiale de BT en France et j'avais passé une douzaine d'années chez Capgemini, où j'avais été responsable de 3 secteurs, le service public, la partie Energy Utilities et puis Industrie. Et j'avais terminé ma mission chez Capgemini en tant que directeur commercial en charge du commerce et des offres et des partenariats au niveau France. Comme cela a été présenté par Robert et puis David, nous avons un certain nombre de chantiers sur l'ensemble de l'activité des services en France que nous avons lancés avec beaucoup de projets de transformation qui se sont traduits depuis bientôt 9 mois. Ma première décision a été au niveau de l'organisation. Nous avons pris la décision d'avoir une seule direction générale pour les services en France, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'il y en avait 2. Et ça avait 3 objectifs. Le premier, a été de simplifier la gouvernance. Le deuxième objectif a été de pouvoir créer, grâce à cette nouvelle dynamique, une nouvelle équipe. Et donc j'ai recruté 80% de nouveaux membres du comité de direction des services à l'extérieur du groupe Econocom. Et ces personnes viennent principalement des principaux leaders des ESN françaises. La troisième chose, et c'est pas neutre, c'est que ça nous a permis de centraliser un certain nombre de fonctions. Je pense entre autres à tous les projets de transformation, à l'avant-vente, au marketing, mais aussi à toute la centrale d'achat, qui nous permettent aujourd'hui d'accélérer en fait ces projets de transformation et de les caler sur le schéma d'orientation que nous avons pris en termes de stratégie. Nous avons un forecast de l'ordre de 1,5% de croissance sur le chiffre d'affaires cette année par rapport à nos 450 millions qui avaient été réalisés l'année dernière. Mais notre priorité, c'est l'amélioration de la rentabilité. Donc nous envisageons une rentabilité supérieure à 2% et l'ensemble des chantiers que je vais vous présenter sont totalement focalisés sur cette optimisation et cette amélioration à terme. Le troisième point, au niveau des effectifs, nous avons une réduction, et c'est une décision de fond que nous avons prise en début d'année, de l'ordre de 5% des effectifs en France. Nous avons aussi en parallèle décidé de recruter majoritairement des ingénieurs pour améliorer la valeur ajoutée sur le positionnement de notre marché. Et puis le troisième point, c'est d'arriver, grâce à cette dynamique collective, à plus de proximité collaborateur, à embarquer l'ensemble du middle management pour lequel nous avons beaucoup d'efforts en cours, entre autres en termes de formation, mais aussi de recrutement complémentaire, puisqu'ils sont au cœur de notre métier et du savoir-faire de l'activité de maintenance, d'infogérance, mais aussi d'ingénierie applicative. Alors, l'ensemble des projets de transformation. Pour votre information, nous avons lancé 30 projets. Je les ai synthétisés en 6 chapitres. Le premier, autour de la mutualisation de notre organisation. Nos clients nous avaient demandé, en particulier en région, de pouvoir avoir une efficacité commerciale et de delivery plus forte. Donc j'ai pris la décision de mutualiser les métiers d'infogérance et d'ingénierie d'infrastructure et d'application pour gagner en efficacité commerciale, mais aussi en efficacité de delivery. J'ai aussi pris la décision de coordonner l'ensemble du recrutement au niveau central pour pouvoir focaliser notre recrutement sur des postes d'ingénieurs, comme je l'ai dit, mais aussi en profiter pour baisser la pyramide des âges et donc on le verra indirectement nos coûts. Le deuxième chapitre est autour des offres. Je ne vous cache pas que sur certains savoir-faire, il y a une certaine pression sur les prix et donc nous avons décidé de nous focaliser sur des offres relutives et sur lesquelles nous avons organisé lors des universités d'été un chantier important pour accélérer notre go-to-market et profiter de ces nouveaux positionnements pour améliorer nos marges. Le deuxième point, c'est que nous avons décidé d'être extrêmement vigilants en amont sur les offres dilutives pour lesquelles nous avons une sélectivité extrêmement forte. Et le troisième point, et ça sert énormément à la dynamique d'amélioration des marges pour les services, c'est de s'ouvrir à l'ensemble des savoir-faire du groupe pour proposer des offres bundle qui regroupent la capacité de financement des services, mais aussi l'accompagnement global quand des clients souhaitent avoir du bout en bout. Le troisième point, et je voulais faire un focus sur la notion de client mid-market. Alors, nous avons historiquement principalement des clients mid-market, en particulier dans le domaine de la maintenance de continuité et dans l'infogérance, mais c'est un élément prioritaire pour trois raisons. La première, c'est que nous avons une couverture nationale extrêmement forte. C'est un véritable atout. Ces clients-là souhaitent avoir une proximité importante. Donc, notre présence régionale est un atout pour y répondre. La deuxième raison, c'est qu'on est sur des marchés où la capacité à accompagner ces clients pour nous de bout en bout est forte. Que ça soit dans la réflexion en amont pour leurs différents projets de transformation digitale, pour le build ou pour le run derrière, nous avons cette capacité globale qui est extrêmement importante, que ça soit d'un point de vue offre ou, comme je l'ai dit, d'un point de vue régional. Le troisième point, c'est que ce sont des clients qui, aujourd'hui, nous sont fidèles et souhaitent développer de vrais partenariats, sans galvauder le mot partenariat. Et en ce sens, on a besoin aussi d'avoir des interlocuteurs uniques qui les accompagnent dans la durée. C'est aussi pour ça que la décision d'avoir des directeurs régionaux répond à leurs demandes et à leurs besoins. Le quatrième chapitre concerne en fait les centres de services pour lesquels nous avons pris un certain nombre de décisions. La première, ça a été de fermer le centre de services international à Madrid et de se reconcentrer sur notre offshore extrêmement dynamique et qui a d'énormes qualités de service aujourd'hui, qui est Econocom Maroc, pour la dimension offshore. La deuxième décision a été de rationaliser le nombre de centres de services que nous avons en France, avec un barycentre important à Grenoble. Et la troisième décision a été d'avoir une seule offre, unique, pour l'ensemble du modèle front office, back office, parce qu'on sait tous que dans ce métier, ce n'est pas une question de back et de front, mais une question de compétences cumulées et associées à un modèle économique qui parfois peut être plus intéressant pour certains clients quand on y intègre la partie marocaine. Le cinquième chantier, il est très classique dans nos métiers de SN, mais il est la gestion des contrats dilutifs. Donc on a identifié et référencé l'ensemble des contrats avec lesquels nous avions quelques difficultés financières, et nous avons eu un gros travail et commercial et d'amélioration de la qualité de service associée pour renégocier un certain nombre de contrats avec nos clients. C'est un point important, il traduit une volonté forte du plan stratégique d'améliorer la qualité de service, parce que la première conséquence, c'est qu'en général, quand la qualité de service est au rendez-vous, les clients sont prêts à payer plus et à rendre le partenariat réel et actif et ne pas être considérés comme de simples sous-traitants sur parfois des métiers qui ont une pression forte en termes de prix. La deuxième dynamique que nous avons créée, c'est que nous arrivons à baisser, en fait, en réalité, notre part de sous-traitance. Parce que la mutualisation et l'organisation unique des trois métiers nous permet d'avoir une meilleure capacité à faire du cross-staffing, à mieux gérer les intercontrats, à être capable d'être plus réactif entre les différents métiers pour pouvoir répondre à des besoins clients à court ou moyen terme. Donc c'est un point important et assez structurant dans le cadre de l'amélioration de la rentabilité de nos contrats que nous demande notre chantier principal pour améliorer l'ensemble de la marge et des marges associées à ces contrats. Concernant la réduction de coûts, une bonne partie des éléments a été partagée par David, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que nous suivons de manière extrêmement rigoureuse, de manière presque quotidienne, avec une volonté de réduire un certain nombre de coûts, comme par exemple l'ensemble des notes de frais, mais aussi, j'en ai parlé, l'ensemble de nos partenariats de sous-traitance de commodités. Derrière, nous arrivons, grâce à la baisse sensible de la pyramide des âges, de faire des économies salariales par rapport à des coûts qui sont évidemment moins importants quand on a des juniors versus des gens plus expérimentés. Et puis derrière, on est dans un schéma qui, grâce à la transformation et l'amélioration de la qualité, nous permet d'être plus efficaces globalement dans l'ensemble de nos prestations quotidiennes. Et donc, nous faisons des économies d'échelle sur un certain nombre de contrats et bien évidemment sur un certain nombre de prestations de services associées à nos offres. Pour conclure, je vous avais dit en mars que j'étais extrêmement confiant sur notre capacité à créer un véritable rebond quant à la rentabilité des services à terme. Je vous confirme qu'avec le lancement de ces 30 chantiers qui ont eu un très bon accueil, à la fois chez les clients, mais aussi en interne, avec les collaborateurs, et c'est très important, parce que seuls ces projets peuvent réussir à avoir un impact à court et moyen terme, que si l'ensemble des 6000 collaborateurs, incluant les sous-traitants, sont mobilisés autour de ces chantiers et de cet objectif. Cet accueil a été très positif. On a de plus en plus accéléré notre volonté managériale d'être en proximité pour accompagner le changement. On l'a fait tout au long des 8 mois. On commence à avoir les premières inflexions. C'est encourageant et ça confirme aussi notre volonté de continuer sur cette trajectoire et confirmer notre dynamique collective, sachant que de plus en plus, les services sont complètement intégrés dans l'écosystème du groupe, avec les différents métiers, avec les satellites, et que ça nous permet réellement de créer une valeur ajoutée qui est extrêmement forte chez nos clients et parfois où nous n'avons pas de concurrents, je pense en particulier dans le mid-market. Merci de votre attention. Je passe la parole à Éric Lucac, directeur général de TMF France.
Bien, bonjour à tous. J'ai une petite dizaine de minutes pour vous expliquer en quoi l'exercice de notre métier, celui de Technology Management and Financing, représente pour le groupe Econocom une opportunité importante avec de nouveaux marchés qui nous appellent à les pénétrer et à travailler sur de nouveaux axes que je vais vous expliquer maintenant. Alors, l'activité de location est une activité qui existe en soi depuis longtemps au sein du groupe et qui donc va avoir... Nous allons conduire un certain nombre de chantiers qui ont pour vocation d'augmenter la valeur qui est proposée à nos clients. C'est un axe TMF en stand-alone. D'autre part, nous sommes au cœur d'un groupe, qui a un modèle unique, qui allie différentes activités et une contribution de satellites aux expertises avérées. Nous avons là aussi une contribution et une collaboration à organiser et à dynamiser pour faire en sorte de créer plus de valeur à destination de nos clients. Alors, tout d'abord, TMF en stand-alone, c'est-à-dire au sein même de son activité, quels sont les 4 chantiers que nous avons initiés pour rebondir et proposer une croissance à notre propre activité. Nous avons de nombreuses expertises, nous devons encore les exalter. Les données que nous avons dans la relation que nous opérons avec nos clients, des données sur les matériels, sur leurs processus, sur les usages qu'ils en font, sur le dimensionnement même de leurs infrastructures, sont des données qui ont de la valeur. Nous avons lancé une offre qui s'appelle Mars, qui a pour vocation d'exalter cette valeur, de la partager avec nos clients et de leur permettre de prendre des décisions éclairées sur les orientations qu'ils doivent faire, sur les programmes qu'ils doivent soutenir et sur les durées d'usage qu'ils veulent allouer à leurs infrastructures et aux bénéfices de leurs utilisateurs. Nous avons aussi, par la mobilité, des besoins de disponibilité, d'hyperdisponibilité, des ressources informatiques et digitales qui sont mis au bénéfice des utilisateurs. Notre niveau de service, le niveau d'assurance et d'assistance que nous devons apporter à nos clients doit encore augmenter parce que nous parlons d'hyperdisponibilité. Aujourd'hui, aucun d'entre vous n'envisage de fonctionner sans son smartphone dans sa poche ou sans un accès à ses données, tant qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Enfin, nous avons au sein de nos contrats une valeur extraordinaire. Nous avons plus d'un million d'assets que nous gérons. Ces assets-là, aujourd'hui, bénéficient de l'appel d'air de cette économie circulaire, qui a pour vocation de donner aux assets une durée plus longue et plus pérenne. On veut un usage maximum du cycle de vie de l'asset. Aujourd'hui, vous voyez émerger partout dans l'environnement retail, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, cette offre nous est demandée par nos clients, des assets qui ne sont pas de premier usage, mais de grande qualité et à forte valeur. La valeur dans le temps des assets que nous louons est en train de se pérenniser et de se bonifier. C'est très important. Nous avons aujourd'hui des processus. Nous opérons plus de 200 000 ventes à l'année que nous opérions jusqu'à présent par lot. Et demain, nous allons les opérer de façon individuelle, segmentée, par le biais d'outils digitaux et de plateformes qui permettent de vendre à une valeur unitaire bien supérieure à ce que nous opérions jusqu'à présent. Cela représente beaucoup d'argent. D'autre part, de nouveaux segments s'offrent à nous et nous avons un élargissement de notre portefeuille de clientèle grâce à des expertises que nous développons maintenant et que nous allons encore intensifier par des investissements soutenus. Je parle du médical. Je parle du green et de l'énergie, où nous avons une capacité à conseiller nos clients sur la gestion de leurs factures énergétiques et sur l'allocation d'investissements en mode à l'usage pour bénéficier des nouvelles générations technologiques qui leur permettent de réaliser des économies significatives. Lesquelles économies ? Nous sommes prêts à nous engager dans l'accompagnement que nous faisons à nos clients et à créer beaucoup de valeur à leur côté. Enfin, depuis 3 années maintenant, nous vous parlons de financement structuré. C'est les financements structurés qui nous ont amenés dans l'environnement de l'industriel, de la robotique, qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec nos clients sur d'autres axes que purement l'informatique ou le monde du digital tel que nous le faisions. Il y a beaucoup de technologies, il y a de la surveillance dans l'environnement industriel, il y a des valeurs résiduelles à considérer. Et nous sommes aujourd'hui sur des collaborations avec un certain nombre de clients, sur des durées nouvelles, des assets nouveaux, qui nous emmènent à réaliser des contrats tout à fait intéressants dont nous avons la maîtrise. Troisième point, Econocom a un savoir-faire et des expertises. Ces savoir-faire et ces expertises, en tant que partenaires financiers, sont à mettre au profit du plus grand nombre. L'économie de la souscription est cette économie qui fait qu'aujourd'hui, pas un seul business model des sociétés émergentes ne s'envisage sans une relation pérenne et durable avec sa clientèle. Vous entendez toujours parler de churn. On surveille la relation au client comme le lait sur le feu. Il est évident que la mise en location des systèmes de vente, des entreprises nouvelles et émergentes, mais aussi des gros acteurs en place qui aujourd'hui reconsidèrent leur go-to-market et leurs relations clients et veulent l'installer dans la durée, doit et va s'appuyer sur le système de mise en location et sur le leasing. Cette relation récurrente, ce paiement à l'usage, assure aux partenaires et à ces nouveaux acteurs une relation durable et pérenne avec leurs clients. Nous en serons un des architectes et nous lançons ainsi un vendeur programme et une capacité avec des outils nouveaux, digitalisés, à proposer la location en mode as a service pour des partenaires en vue de financer leurs propres ventes. Nous avions un réseau de commerciaux exclusivement tourné sur la vente directe en B2B. Aujourd'hui, nous aurons des commerciaux qui vont adresser l'écosystème et ses partenaires pour les accompagner à monter ces programmes à leur côté. Enfin, quatrième sujet. Nous ne pouvons regarder notre activité et notre savoir-faire sans penser à la maîtrise de nos coûts et de notre relation avec notre client. Nos processus sont revisités et la qualité de la relation va aujourd'hui s'ancrer sur une relation digitale, dématérialisée, zéro touch. Nous sommes déjà dans le monde de la signature du contrat électronique, c'est un axe, mais demain nous souhaitons que nos clients exécutent, procèdent, et organisent leurs relations administratives avec Econocom en étant eux-mêmes acteurs d'un certain nombre de processus administratifs. Je passe ma commande, je mets en règlement, je valide la réception du matériel, je déclenche une reprise, je suis l'évolution de mon contrat et j'ai accès à cette transparence et à ce temps réel de la relation entre Econocom et ses clients. Deux programmes. Le programme Customer Satisfaction, où nous allons mesurer la progression et l'efficacité de notre programme en relation avec le client, et le Customer Journey, où nous voulons digitaliser l'intégralité de nos outils et de notre relation. TMF en stand-alone, TMF au sein de l'organisation et de la stratégie plus large du groupe Econocom, avec ce positionnement spécifique et atypique d'allier ces trois métiers et les expertises de nos satellites. Ce véhicule et ce vendeur programme va être mis au service de nos satellites et de nos organisations. Nous aussi avons à transformer notre relation avec nos clients et les activités sœurs du groupe Econocom vont désormais proposer des programmes basés sur l'expertise de TMF. D'autre part, l'ensemble des bundles ou de solutions end-to-end, de bout en bout, extrêmement demandés par nos clients qui aujourd'hui souhaitent agréger auprès d'un seul et unique interlocuteur une responsabilité claire et opérationnelle de la gestion de leurs ressources informatiques et digitales, eh bien, cette solution-là est agrégée, ces savoir-faire sont agrégés grâce à l'architecture et au savoir-faire d'Econocom TMF, où nous sommes l'opérateur financier et nous transformons un modèle d'investissement en un modèle de paiement à l'usage, où nous définissons avec nos activités sœurs et avec nos clients des unités d'œuvre de facturation qui nous emmènent vers une maîtrise de ces unités d'œuvre partagées avec le client. Enfin, nous sommes convaincus qu'avec l'activité Econocom produits et solutions, nous avons de nombreuses synergies. Elles sont opérationnelles dans nos business process. EPS, l'activité de distribution, est un des principaux fournisseurs de l'activité de TMF. Notre relation peut être optimisée, elle sera digitalisée. Nos enjeux administratifs et opérationnels peuvent être aussi agrégés et adressés de façon unique. Nous opérons tous à la passation de commandes, à la mise en œuvre de règlements et à la facturation de nos opérations. C'est un sujet commun. Nos processus, nos back-office ont des axes communs que nous allons développer. Autre point, cette activité est présente à hauteur de 55% de son chiffre d'affaires dans l'environnement public. C'est là pour nous une formidable zone d'inspiration et de jeu qui s'ouvre à nous grâce à l'évolution de la réglementation et un rééquilibrage entre les enjeux et les risques pris par le loueur et aujourd'hui les obligations de la personne publique. La réglementation ayant évolué, c'est un marché pour lequel nous avons déjà deux succès majeurs et pour lequel nous continuons d'investir et nous allons aux côtés d'EPS grâce à la force commerciale d'EPS déjà très implémentée auprès de la personne publique, développer un programme de développement commercial et juxtaposer les savoirs de nos deux métiers. Il est important de comprendre que le chiffre d'affaires qui sera fait par EPS, mis en location par l'activité TMF, ne sera jamais qu'un seul et même chiffre d'affaires consolidé. En revanche, nos marges vont s'additionner et la profitabilité de nos opérations sera ainsi fortement contributrice au développement du groupe Econocom. Vous voyez que ces transversalités, que cet enjeu tant à destination de notre écosystème qu'à destination de nos partenaires internes à Econocom sont un enjeu majeur pour la transformation de TMF. Et donc cette transversalité, j'invite maintenant Martine Bayens à me rejoindre sur scène et à prendre la parole. Elle est directrice générale en charge des satellites, des transversalités et de ressources humaines au sein du groupe Econocom. Merci à tous.
Merci Eric. Bonjour à tous. Alors on a déjà beaucoup entendu parler d'offres de transversalité. Et comme vous vous en doutez, nous avons une multitude d'offres chez Econocom dans les différents métiers que nous avons commencé par répertorier. Et là, effectivement, nous investissons dans la conception de solutions end-to-end qui sont à la fois relatives à différentes technologies, mais aussi à différentes industries. Nos offres incluent des savoir-faire de chaque BU, mais aussi des satellites. On y a déjà fait référence. Et elles allient équipement, services et solutions et financement. Alors, depuis le début de l'année, nous avons lancé toute une série d'offres qui permettent d'apporter une valeur à nos clients. Et je vais commencer par l'offre Mars que Eric a mentionné, qui est une réelle offre Big Data. Qui répertorie la gestion des données d'entreprise et qui va nous permettre d'avoir une approche unique qui permettra de décliner tout ce qui est utilisation des devices et des solutions en facturation à l'usage. Nous avons lancé juste avant l'été, nous avons déjà deux proof of concept qui sont en cours. Et nous avons un pipeline qui grandit parce que c'est une offre que nous présentons à tous nos gros clients et notamment toutes les sociétés du CAC 40. Notre offre mobilité a été lancée, elle, début d'année et elle regroupe les offres multiples de mobilité, de satellites et de la planète, avec vraiment pour présenter une offre à 360 degrés qui répond aux besoins de mobilité de nos clients, à la fois les tablettes, les mobiles que vous utilisez, mais aussi tout ce qui est plus logistique, plus col bleu, utilisation col bleu dans les sociétés. Alors nous sommes aujourd'hui un des leaders en France avec plus de 150 millions de chiffre d'affaires rien que sur cette offre mobilité. Et nous la tournons vraiment en une offre as a service by design, je dirais, en alliant les devices, le service et le financement. L'offre Microsoft vient d'être lancée juste avant l'été. Elle regroupe et structure l'ensemble des offres de la planète en la matière, mais aussi notre satellite Infini. Nous voulons d'ailleurs aller vers le marché avec cette marque unique Infini et profiter des opportunités qu'offrent les services Microsoft, notamment en migration Windows 10, pour se positionner sur le marché. Et nous comptons bien devenir le leader du marché en France dans les mois qui viennent. Et c'est certainement un sujet sur lequel nous reviendrons. Plus d'actualité, l'offre éducation, aussi mentionné par mes collègues, avec là un revenu de plus de 100 millions également rien que dans l'éducation, avec par exemple la fourniture il y a quelques jours à plus de 170 collèges dans les Bouches-du-Rhône de plus de 55 000 tablettes pour les classes de 5e et 6e. Et donc nous profitons de ce courant d'équipement des étudiants dans les différentes écoles. Tout ça produit dans nos centres de services à une vitesse record, une organisation record. Alors, dans les prochains trimestres, nous continuons à investir dans différentes offres. Et là, je vais peut-être faire un focus sur deux offres que nous développons à partir de l'international. Tout ne part pas de France. Nous sommes un groupe international. Je vais commencer par l'offre retail que nous développons à partir de l'Espagne. Simplement parce que nous avons en Espagne trois satellites qui proposent des solutions dans le domaine du retail, qui vont de l'équipement des points de vente à la fourniture de services de marketing digital pour amener les clients dans ces points de vente, mais aussi pour les fidéliser après le rachat. Je parle des satellites Gigigo, Altabox et Caverine. Et c'est une offre que nous lançons dans les semaines qui viennent en Espagne et que nous allons proposer fin d'année à de grands groupes retail ici en France. L'autre offre sur laquelle je voudrais faire un focus est l'offre de Smart Building qui a débuté en Espagne et qui nous permet de proposer à nos clients tout ce que permet l'IoT aujourd'hui dans les bâtiments. Nous nous basons sur les nouveaux bâtiments, les Econocom, qui s'appellent Econocom Village à Milan, et qui mettent en musique tous ces savoir-faire pour vraiment offrir une expérience unique à nos employés et aux clients qui visitent nos bureaux. Voilà, ça peut nous permettre également de facturer ou de proposer des manières de facturer tout à fait innovantes, comme par exemple l'équipement d'un bâtiment en facturant au mètre carré. Également une offre que nous pensons distribuer en France très prochainement. Toutes ces offres ont vocation à être internationalisées. Donc on va regarder offre par offre quel est le potentiel de déploiement dans les différents pays. Et c'est ce qui va nous préoccuper dans les mois et les années qui viennent. Je vous remercie et je passe la parole à Robert qui va nous parler du M&A.
Donc vous l'avez compris, des offres qui adressent soit des verticaux techniques complexes et que nous devons mettre en œuvre chez nos clients pour leur servir les innovations, soit des verticaux métiers avec notamment l'offre retail que nous adressons en premier et bien l'éducation et d'autres à venir. Mais une segmentation différente dans notre façon de se présenter au métier de façon à mieux parler le langage de nos clients et à faire encore une fois davantage le lien entre les innovations du digital et ce que nous pouvons leur servir avec un modèle financé à l'usage. Je reviens maintenant sur le M&A. Le M&A contribue à la stratégie du groupe selon deux axes, le déploiement de nos offres en Europe et les investissements dans les segments à forte valeur ajoutée. Sur ces 18 derniers mois, nous avons investi dans nos principaux pays avec des opérations ciblées Au premier semestre, nous avons acquis Altavox en Espagne, une belle société dans les solutions marketing omnicanal qui travaille principalement justement dans l'offre retail. BDF en Italie sur une activité de distribution et d'infogérance. J'ai terminé maintenant cette présentation en vous redonnant les éléments clés de notre guidance annuelle. Nous confirmons aujourd'hui notre objectif de 120 millions d'euros de résultats opérationnels courants sur 2018. Nous mettons notre priorité absolue sur la réussite du second semestre. Nous sommes pleinement concentrés sur cet objectif. Nous bénéficierons des efforts de réduction de coûts et de transformation engagés. Nous mettrons un focus particulier sur la gestion du cash, ceci en créant le socle de notre future croissance rentable. Je voulais vraiment vous remercier de votre attention. Merci à vous.